RFJ Info.
Le journal de Michel Léoni.
Bonsoir. Des députés PSA au Grand Conseil bernois pointent du doigt l'attitude du conseiller d'État Christophe Neuhaus. Dans une motion urgente, certains autonomistes vont même jusqu'à demander sa suspension de la gestion de son département et de la délégation aux affaires jurassiennes. Explication dans un instant. Oulema Aurer relance la réforme de la fiscalité des entreprises. Elle est désormais dans les mains du Parlement. Le Conseil fédéral n'a presque pas retouché son projet qu'il conçoit comme équilibré. Présentation dans ce journal. Le HC Ajoie veut encore rêver. Il accueille Rapperswil ce soir au Voïbeu pour l'acte 4 de sa série de demi-finale. Menée 2-1, une victoire permettrait au HCA de maintenir la pression sur les Saint-Gallois. La nuit sera glaciale dans la région. Le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés à 1000 mètres, moins 5 en pleine. Demain matin, le soleil régnera dans le ciel de la région avant que les nuages ne reprennent le pouvoir. Réaction en chaîne après les révélations du quotidien bernois Le Bund sur l'affaire des soupçons de tourisme électoral à Moutiers. Les députés PSA au Grand Conseil bernois, Pierre Sauvin et Patrizio Robbiani, ont déposé une motion urgente à l'encontre du conseiller d'État Christophe Neuhaus. Les deux autonomistes demandent l'ouverture d'une enquête et la suspension du conseiller d'État de la gestion de son département et de la délégation aux affaires jurassiennes. Ils n'hésitent pas à parler de supercherie. À quelques jours des élections cantonales bernoise, le Bund a révélé ce matin que Christophe Neuhaus avait participé à la diffusion d'un article sur les soupçons de tourisme électoral, alors même qu'il savait que le ministère public refusait d'entrer en matière. Les explications du Conseil d'État bernois n'ont de loin pas convaincu le député PSA Pierre Sauvin.
Monsieur Neuhaus évoque la fatigue de la campagne, il dit s'excuse de la désinformation qu'il a répandue. Si c'est le cas, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'il prend les choses très à la légère. Donc pour un conseiller d'État en plus directeur de la justice, c'est pas terrible. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'est pas parfaitement innocent et qu'il vise vraiment à soutenir les listes UDC dans cette campagne en faisant croire que le vote de Moutier n'est pas définitivement entériné. On doit savoir ce qui s'est passé. En attendant, il y a suspicion et puis la demande peut aller très loin. C'est, un directeur de la justice ne peut pas se permettre de répandre de fausses informations comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que M. Neuhaus jette le trouble sur ce qui s'est passé à Moutier. Finalement, induise aussi un petit peu la préfète en erreur et fasse une pression qui serait relativement malsaine sur cet organe qui devrait juger de façon complètement indépendante.
Le conseiller d'État Christophe Neuhaus nous a indiqué qu'il ne voulait plus s'exprimer sur cette affaire pour ne pas jeter davantage d'huile sur le feu. Oulema Aurer espère avoir trouvé le compromis pour réformer l'impôt des entreprises en Suisse. Pour s'extirper de la liste grise européenne, la Suisse doit éradiquer les statuts fiscaux spéciaux. Il y a eu le projet RIE3 que le peuple a rejeté à 59% il y a un peu plus d'un an. Voici désormais le programme fiscal 17 ou PF17 avec un assortiment de mesures que le Conseil fédéral estime équilibrées. À Berne, c'est une correspondance de Serge Jubin.
C'est un programme vaste et complexe qui coûtera 2,2 milliards de francs, mais qui aura, dit Oulema Aurer, des effets dynamiques pour l'économie et l'emploi et rapportera dans 5 à 10 ans 3,6 milliards. Les mesures, vous l'avez dit, suppression des statuts spéciaux fiscaux dans les cantons, une diminution du taux d'imposition des entreprises dans les cantons avec une moyenne qui passera de 20 à 15%, des patent box pour défiscaliser les activités innovantes, des déductions pour la recherche et le développement, ça c'est à l'avantage des entreprises. Pour l'équilibre, les dividendes seront fiscalisés à au moins 70% et le plancher des allocations familiales est remonté de 30 francs à 230 francs. Dernier point et pas des moindres, le Conseil fédéral est d'accord de rétrocéder 21,2% de l'impôt fédéral direct au canton, contre 17% aujourd'hui. Pourquoi PF17 a-t-il une meilleure chance d'être accepté que RIE3, le ministre des Finances, Oulema Aurer?
Ce projet est équilibré. On a travaillé tout d'abord avec les cantons, les villes, les communes pour trouver une solution pour tout le monde. On a gagné dans ce temps et je pense que tous les cantons sont pour. Aussi, les entreprises sont d'accord.
La petite compensation sociale du programme, c'est le relèvement de 30 francs des minima des allocations familiales à 230 francs. Or, les cantons romands sont déjà bien au-delà. Le programme prévoit-il un relèvement général de toutes les allocations familiales ou à Oulema Aurer?
Oui, on a discuté ça aussi avec les cantons de la Romandie. Là, on était d'accord et on a dit qu'on doit chercher quelques mesures internes dans les cantons pour les familles ou quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas augmenter dans toute la Suisse à 300 francs. C'est différent.
Il y a urgence à adopter PF17. Le Parlement devra le faire d'ici à la fin de l'année pour que les premières mesures entrent en vigueur dès 2019, pour autant qu'il n'y ait pas de référendum.
Uli Maurer a présenté une autre réforme pour ne plus pénaliser fiscalement les couples mariés. Le Conseil fédéral propose aux quelques 80 000 couples concernés de comparer leur déclaration fiscale commune avec une double déclaration, comme celle des concubins. Ils paieront alors la facture la moins élevée. Il en coûtera un peu plus d'un milliard de francs à la Confédération. Ce projet ne concerne que l'impôt fédéral direct. Baselworld s'ouvre dans un climat tendu. Le plus grand salon d'horlogerie au monde se tient dès demain et jusqu'à mardi prochain à Bâle. Et cette édition 2018 suscite bien des interrogations avec près de la moitié moins d'exposants qu'il y a une année. Ils sont désormais 750 à participer à la foire contre 1300 l'an dernier. Ce matin, lors de la conférence de presse inaugurale, la directrice a souhaité mettre les points sur les i concernant les spéculations sur l'avenir du salon. Sylvie Ritter.
Nous avons réadapté notre concept. Le marché de l'horlogerie et de la bijouterie au niveau mondial vit une période de mutation. Il y a de moins en moins de marques au niveau mondial. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous devons refléter dans le salon. Nous avons eu deux solutions. L'une aura été l'expansion, l'autre la concentration. Et on a eu de longues discussions avec nos exposants en tant qu'organisateurs de salon. Vous savez, vous ne décidez rien tout seul. C'est toujours en coordination avec nos exposants qui finalement sont notre produit. Sans exposants, nous sommes rien. Sans marque, nous ne sommes rien. Nous avons décidé d'opter pour la concentration. Et c'est ce que nous avons le plaisir de présenter au monde aujourd'hui.
Des propos recueillis par Yann Esler, la direction a encore ajouté que Baselworld ne voulait plus rassembler tout le monde, mais les meilleurs et les plus convoités de chaque secteur. Interrogée sur ce sujet, la directrice ne s'est pas exprimée. Vous retrouverez des reportages sur Baselworld dès demain dans la matinale sur RFJ. Et nous évoquerons cette nouvelle édition de Baselworld également dans notre émission Place Publique à partir de 18h20. Le journaliste spécialisé Valère Gogna sera notre invité. Place Publique abordera aussi la langue française en cette semaine qui y est dédiée. On va se poser la question de savoir si le français c'était mieux avant. Place Publique, c'est donc dès 18h20. À l'étranger, aux États-Unis, l'auteur présumé des attaques au colis piégé s'est suicidé hier soir. L'homme a mis fin à ses jours en actionnant un des engins à bord de son propre véhicule. Les attaques ont fait 2 morts et 4 blessés depuis début mars au Texas.
RFJ, il est 18h08.
Le sport avec la loterie romande.
Le Voibeu attend la réaction de ses vouivres. Le HC Ajoie reçoit Rapperswil ce soir à 19h45. Il s'agit du quatrième acte des demi-finales des playoffs de Swiss League. Les hockeyeurs jurassiens sont menés 2-1 dans cette série au meilleur des 7 matchs. Ils restent sur une nette défaite dimanche en terre saint-galloise. Les Ajoulots doivent donc relever la tête à domicile pour ne pas se retrouver dos au mur. L'entraîneur du HCA, Gary Sheehan.
Bon, on devra simplement être meilleur dans nos duels parce que si on n'arrive pas à gagner les duels, c'est difficile de faire du jeu. Mais aussi au niveau du rythme, au niveau du jeu physique, il va falloir être meilleur. Il va falloir être un peu plus prêt à payer le prix. Je veux dire, ça, c'est les playoffs. Et puis maintenant, ben, on n'a pas trop le choix, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est à nous maintenant de retrousser nos manches.
Vous n'êtes pas tout à fait dos au mur, mais il y a quand même la pression qui va se rajouter mercredi à la maison.
C'est la même pression que 1-0, c'est 2-1. Puisqu'on attend, moins qu'on aura de temps. Alors, c'est clair que nous, on a dit, l'important, c'est de gagner nos matchs à la maison.
HC Ajoie, Rapperswil, quatrième acte des demi-finales des playoffs. C'est à vivre en direct et en intégralité sur RFJ dès 19h30. Kiki Crétin sera notre consultant. Un nouveau rendez-vous international pour Nicolas Fleury. Le juge de ligne de Moutier a été désigné pour officier à l'occasion du prochain championnat du monde de hockey sur glace. Il se tiendra au Danemark, à Copenhague et à Herning du 4 au 20 mai. Le FC Basse-Cour au repos forcé. Le match qui devait opposer les footballeurs jurassiens aux Kickers de Lucerne ce soir à 20h a été renvoyé. La pelouse lucernoise est sous la neige. Cette rencontre de Première Ligue sera probablement refixée au 18 avril. l'UCI lance la chasse au dopage technologique. L'Union cycliste internationale a présenté cet après-midi à Genève son nouvel outil anti-fraude, une cabine mobile qui permettra de passer les rayons au rayon X. Les agents de l'UCI pourront alors voir l'intérieur des tubes du vélo et y déceler d'éventuels moteurs ou autres assistances. Jérémy Pignard, l'UCI espère ainsi resserrer l'étau autour des fraudeurs.
Oui, parce que jusque-là, l'efficacité des contrôles effectués à l'aide de tablettes, en fait c'était de simples capteurs thermiques, était très critiquée. Avec ces nouvelles cabines à rayon X, l'UCI affirme que la fraude technologique sera désormais presque impossible. Les vélos seront passés au crible dès l'arrivée de la course, selon l'UCI. Et pour en parler avec nous, Christophe Moreau, ancien coureur professionnel et consultant pour RFJ. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
Christophe Moreau, quand vous entendez parler de cette cabine à rayon X, vous pensez quoi en termes d'efficacité? Ça va permettre d'éradiquer ce qu'on appelle le dopage technologique?
Bah oui, parce qu'il s'est avéré qu'il a bel et bien existé, que ses moyens de détection étaient finalement déjoués par des techniciens qui arrivaient quand même à insérer les moteurs et à un peu supprimer la fiabilité de ces tablettes. Définitivement, avec ce moyen-là, cette cabine-là de détection de moteur à travers les tubes, à travers une lisibilité parfaite de ce qu'il pourrait y avoir comme entrave à la bonne conduite, il est clair qu'enfin, cette fois, l'UCI a très certainement trouvé le moyen d'éradiquer toute suspicion d'assistance électrique comme elle était jusqu'à aujourd'hui dissimulée.
Maintenant, on imagine que ça dépend aussi de l'efficacité de la fréquence des contrôles. Il semblerait que ce soit à l'arrivée de la course, c'est le bon moment pour effectuer ces contrôles?
Oui, en tout cas à l'arrivée, bien sûr, mais aussi les vélos de rechange. On a pu voir par le passé que certains coureurs récupéraient des vélos qui n'étaient pas tout à fait positionnés sur la galerie de la voiture suiveuse et qui étaient dans le public. Cette fois-ci, il faudrait multiplier ces contrôles sur les différents vélos de rechange que les coureurs ont à disposition à l'arrivée, mais peut-être aussi au départ, sur les étapes de montagne, sur les contre-la-montre. Bref, multiplier ces contrôles pour définitivement faire oublier aux possibles ou aux éventuels tricheurs qu'aujourd'hui on peut encore passer à travers les mailles du filet.
Alors on a Jean-Christophe Perrault, l'ancien coureur français qui a participé au développement de cette cabine parce qu'il est aussi ingénieur en génie énergétique. Le fait qu'un coureur ait collaboré, ça renforce la crédibilité du dispositif?
Je dirais que l'avantage de Jean-Christophe Perrault, c'est qu'il a ses compétences effectivement électroniques et puis scientifiques pour pouvoir juger son parcours professionnel cycliste et ses études poussées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'adaptation de cette machine, de cette cabine va pouvoir permettre définitivement de contrôler parfaitement sans qu'on puisse se dire est-ce que c'est fiable. Non, elle l'est. Aujourd'hui, elle est confirmée, elle est scientifiquement prouvée et ça fonctionne. Et on va pouvoir maintenant s'orienter sur des résultats qui ne seront plus suspicieux, comme par le passé avec le dopage physiologique et aujourd'hui avec ce dopage mécanique qui finalement ternissait l'image et surtout les exploits des coureurs.
Merci beaucoup Christophe Moreau, ancien coureur cycliste, d'avoir été en direct avec nous. Le dispositif sera opérationnel dès ce week-end. Il sera aussi utilisé en VTT. Et pour information, les fraudeurs risquent 6 mois de suspension minimum et une amende qui peut grimper jusqu'au million de francs pour l'équipe fautive.
Et merci Jérémy. Vous revenez donc sur la chasse antidopage technologique lancée aujourd'hui par l'UCI. Excellente soirée à toutes et à tous.
Le temps cette nuit sera calme et sec, la bise faiblira progressivement, mais les températures resteront froides, ce qui favorisera les gelées qui se généraliseront sur l'ensemble de la région. Demain au réveil, le soleil sera au rendez-vous, il nous accompagnera jusque dans l'après-midi. Dès lors, les nuages reviendront en force, ils s'étendront, ils s'activeront sous forme de neige à basse altitude en soirée déjà, puis la nuit suivante. Demain toujours, les températures seront plus que froides, à l'aube, elles oscilleront entre moins 5 et moins 4 degrés, les maximales ne dépasseront pas les 5 degrés.